Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à cette dernière session, la dernière de l'année, cette dernière soirée entre membres. Aujourd'hui, donc, c'est Marine qui guidera la pratique avec un enseignement qui s'intitule « Les 7 ans de l'école en Belgique ». Et donc, on va enfin pouvoir y voir un peu plus clair. Mais du coup, la pratique, enfin, la séance se déroule de la manière suivante. Il y a une pratique guidée, un enseignement pour approfondir la pratique et découvrir l'école, un moment de questions-réponses et une pratique silencieuse.
Donc, je vais en profiter juste pour vous dire deux mots de ce qu'on va faire ce soir. Donc, je me disais qu'avant de partir en vacances, ou en tout cas de fermer les portes pour 2 mois, ce serait bien de, pour la méditation guidée, reprendre une méditation assez simple, la méditation des quatre forces, et aussi reprendre une méditation qui reprend les 6 points de la posture, vraiment des points très classiques et traditionnels de la méditation. Comme ça, ça permet de partir assez au clair avec ces points-là aussi pour cet été, peut-être donner des pistes de recherche et de tests dans vos pratiques. Et puis, comme Jam l'a dit, après, je trouvais que c'était pas mal de faire un petit retour à Mons sur cette année de l'école qui viennent de passer, parce qu'il y a énormément de nouveaux membres et qui ne connaissent pas du tout l'histoire de l'école ici à Bruxelles. Donc, ce ne sera pas très long. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas raconter tous les détails, mais je pense que c'est bien parce que vous verrez tout à l'heure, du coup. Et puis, on fera une méditation silencieuse. Sinon, je vais déjà brûler toutes mes cartouches. Donc, je vous invite simplement à vous installer au milieu du coussin, puisque vous êtes tous sur les coussins, et on va commencer la pratique. Nous allons prendre un petit moment pour simplement nous asseoir sans essayer de faire quoi que ce soit. C'est vraiment important de rentrer tranquillement dans la pratique. Et ce premier moment, c'est vraiment s'autoriser simplement à être tel que nous sommes là maintenant. Ce soir. Vous pouvez entièrement vous laisser être assis sur ce coussin. En sentant bien qu'il n'y a absolument rien à réussir, rien à tenter, rien à gagner. Que d'emblée, là maintenant, c'est déjà tout à fait OK. C'est ainsi que sans rien avoir à faire, on peut juste écouter. Prendre un bain sonore. avec ce chant des oiseaux qu'on retrouve tous les mercredis soirs. Pourtant jamais identique. On s'ouvre entièrement au monde en écoutant. Vous pouvez entrer dans la texture de chacun des sons que vous entendez. Est-ce qu'ils sont lents, rapides? Peut-être qu'il y a des commentaires qui viennent et vous pouvez complètement laisser tomber ça. Reste juste dans la pure écoute de ce qui est là ce soir. Et à mesure que nous nous ouvrons au monde en écoutant, on peut sentir que on se pose un peu plus. Ce qui fait qu'on entre dans la deuxième force, l'ancrage corporel. Et là, je vous invite simplement à vous autoriser à être un peu plus avant, à vous asseoir sur ce coussin. Sentir qu'avec l'immobilité, il y a une solidité qui vient. La solidité de l'assise. Des pieds sur le sol. On explorera ça de manière un peu plus précise après, mais on peut juste sentir comme votre corps descend, que vous êtes établi quelque part. Et en même temps, quelque chose en vous demande à se redresser, à toucher un sens de verticalité. À mesure qu'on porte attention à l'ancrage corporel, on sent vraiment qu'on entre dans une immobilité qui permet à toute l'expérience de se manifester plus pleinement. Dans cette immobilité que la troisième force se montre, la respiration. Vous pouvez porter attention à l'inspire et à l'expire sans rien changer. Vous accorder à ce mouvement, le balancier du souffle. Le souffle qui vient aérer la présence. Qui est le signe du mouvement de la vie en vous. Là, c'est vraiment le moment où on s'accorde à ce souffle. Vous êtes le souffle. pouvez sentir que vous pouvez vous abandonner à ce mouvement. Là, il y a un sens d'accueil et d'ouverture qui peut venir. C'est la quatrième force. Cette disposition à simplement être ouvert à tout ce qui se présente là maintenant. Laisser de l'espace pour les pensées, les émotions, les sensations. On peut goûter ce mouvement d'ouverture. Maintenant, on peut prendre un petit instant pour sentir comment ces quatre forces s'ajointent là pour vous ce soir. Est-ce qu'il y en a une qui est plus présente ou est-ce que vous passez de l'une à l'autre? Sans aucune attente, regardez juste comment c'est pour vous. Ensuite, je me propose de vous accompagner dans une exploration un peu plus précise de la posture, avec ce qu'on appelle les 6 points de la posture. Le premier point, c'est l'assise. Donc, je vous invite à porter une attention un peu plus précise sur l'assise, le bassin. Peut-être qu'il y a un léger mouvement pour sentir si votre corps est à l'équilibre. Vous pouvez complètement laisser faire votre bassin, c'est lui qui sait. Il s'abandonne entièrement au coussin qui est là pour l'accueillir. Vous avez les jambes croisées devant vous, si c'est possible, avec les pieds qui touchent le coussin, le tapis par la tranche extérieure. Vous pouvez un peu avancer ou un peu reculer les pieds pour que ce soit la tranche extérieure du pied qui touche le tapis. Sentir comme c'est un appui véritablement. Vous pouvez laisser les jambes et les cuisses être complètement prises par l'attraction du sol, de la terre. C'est pas nécessaire de résister. Mais on peut sentir un sens d'établissement. Vraiment cette dimension d'exploration, donc il n'y a pas besoin de réussir à tout ressentir. Puis je vous invite à lâcher les bras le long du corps, sentir ce que ça fait dans les épaules, à l'intérieur des coudes, les mains, sentir la force de l'attraction. Et vous allez simplement relever les avant-bras et déposer les paumes là où elles se posent le plus naturellement sur les cuisses. Et laisser les paumes. poids des paumes vraiment s'imprimer sur les cuisses. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Faut pas forcer la plat, elles vont se déposer toutes seules. Faut être juste attentif à ce mouvement où même les paumes se déposent douces. Quelque chose qui s'abandonne aussi. Et là, on a vraiment trois points solides, l'assise, les pieds en contact avec le sol et les mains sur les cuisses, qui nous permettent de nous établir, d'entrer dans une solidité, dans une immobilité. Parfois, la verticalité vient assez spontanément. On peut sentir que le corps a envie de se tenir droit. Et si ce n'est pas tout à fait spontané, vous pouvez imaginer qu'il y a un fil qui sort du haut de votre crâne et qui va véritablement vous accrocher au ciel. Vous êtes comme suspendu. Avec ce fil, ça montre qu'il n'y a pas vraiment d'effort à faire pour forcer la verticalité. De sentir que d'être ainsi suspendu, un peu d'espace qui se fait entre les vertèbres et un mouvement qui est possible, c'est pas rigide. Et comme ça, on est entièrement en rapport à la terre et au ciel. On peut sentir un sens de dignité, de droiture. Très bien avec le point suivant qui est l'ouverture de la poitrine. Donc les épaules sont relâchées, si c'est possible pour vous. Et la poitrine est ouverte. Ça peut être un peu inconfortable, parce qu'on va avoir un peu la sensation d'être un peu plus à nu. Mais en même temps, comme on est très solide, droit, la verticalité est là pour nous tenir, on se rend compte que c'est possible. Mais à la fois être solide et ouvert. La tête est bien droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Un tout petit peu en arrière. Que les cervicales soient bien alignées. Les yeux sont ouverts et sont déposés à 1,50 m ou 2 m face à vous, au sol. Et pour vous aider, vous pouvez imaginer qu'il y a une petite pergale droite devant vous, d'abord, vraiment à l'horizontale. Et puis imaginez qu'il y a une petite feuille qui tombe. Vous suivez la petite feuille qui vient se déposer par terre. Et voilà, votre regard se dépose comme tout le reste de votre corps s'est déposé. C'est un peu inconfortable au début de garder les yeux ouverts. On peut avoir confiance que ça va venir. Pas besoin de fixer quoi que ce soit, on est ouvert aux couleurs, aux formes, aux mouvements. Et le dernier point, c'est la mâchoire qui est entrouverte. Pour vous aider, vous pouvez dire intérieurement le son A. Et la mâchoire inférieure est complètement relâchée. Ça, c'est très subtil aussi parce que souvent, même sans s'en rendre compte, on serre les dents dans l'existence. Mais là, la proposition, c'est de lâcher la mâchoire inférieure. Et là, vous avez tous les points de vraiment très traditionnels de la posture qui sont présentés de manière pédagogique. Et donc, c'est bien de sentir maintenant comme toute cette posture est une. Que vous n'êtes pas découpé en 6 points, mais que vraiment, voilà, votre corps est en. Posé comme ça, établi dans la posture. Donc il y a deux conseils pour habiter son corps dans la pratique de la méditation. Le premier, c'est de sentir cette solidité et le fait que le devant de votre corps est ouvert. Vraiment rentrer en rapport à ça. Et le deuxième conseil, c'est d'entrer en rapport avec toutes les perceptions sensorielles. Pour explorer la texture des vêtements. C'est des endroits qui sont plus douloureux ou moins, ou même insensibles. Vous entrez dans l'expérience du corps. Vous sentir les chevilles, les genoux, les coudes, les omoplates, la gorge. Il ne faut pas chercher à nommer quoi que ce soit, juste sentir ce qui est là. Maintenant, je vais vous inviter à porter votre attention sur la respiration. De manière assez légère, sentir le mouvement, l'inspire et l'expire, tout en restant très ouvert à tout ce qui se passe autour de vous, dans le corps. On dit qu'on porte 25% de l'attention sur le souffle, juste pour donner une idée, hein, c'est pas pour faire des calculs. Vraiment sentir la différence d'expérience entre l'inspire et l'expire, ce qui se passe dans votre corps, dans la poitrine, dans les bras. Vous pouvez vraiment vous poser dans la respiration. Vous confier à elle. vous abandonner à ce mouvement. Et une fois posé dans la respiration, vous pouvez porter une attention un tout petit peu plus précise à l'expire. Vous laissez complètement l'inspire se faire et juste un petit peu plus attentif à l'expire. À ce souffle qui sort de vos poumons et rejoint l'espace extérieur. Et puis très probablement, il y a des moments où vous allez lâcher cette attention. L'esprit sera complètement ailleurs. Et comme vous le savez, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème avec ça. On est juste très attentif au moment où l'esprit revient à la maison et entièrement là. Peut-être par le tic-tac de l'horloge, peut-être par ma voix ou autre chose. Et là, vous dites bonjour. Vous accueillez la présence vive et fraîche. Et puis vous revenez à l'attention au souffle. Se passer mille et une choses, une émotion qui vous submerge ou quelque chose, un endroit dans votre corps qui vous dérange. Et vous pouvez saluer et revenir au souffle. Vraiment sans histoire. Quand vous avez dit bonjour, vous pouvez juste goûter le contraste entre la présence d'esprit et le moment où c'est plus confus ou un peu embrumé, ou carrément ailleurs. Je vous invite juste à sentir la différence de tonalité quand vous revenez. Et vous revenez à l'attention au souffle. Qui est votre ancre dans cette pratique? Comme c'est là maintenant, c'est absolument parfait. Il n'y a strictement rien d'autre à faire. Peut-être que, avant de dire quelques mots donc, du thème du jour, peut-être que vous avez des questions sur cette pratique ou par rapport à votre expérience, comment c'était pour vous. N'hésitez pas surtout. C'est vraiment l'occasion. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit les numéros pendant la, pendant la méditation. Donc, la première, c'est l'assise. Le premier point, c'est l'assise. Et avec l'assise, la position des jambes, le rapport à la terre. Le deuxième point, c'est les mains. Et donc, les bras, etc. Comment on pose les mains sur les cuisses. C'est aussi véritablement un geste, c'est pas anecdotique, c'est véritablement un geste de repos que l'on fait en posant ses mains avec les cuisses. Ça nous aide à nous établir, c'est très simple et très solide. Ensuite, il y a le dos et le sens de verticalité avec le fil, l'image du fil qui peut être très aidante. L'image de la montagne, là, ça, s'il y a des images comme ça qui vous parlent, il ne faut pas hésiter de les évoquer à ce moment-là, par exemple, l'arbre, la montagne, le rocher, tout ce qui montre un sens de droiture, le cavalier même. Le quatrième point, c'est l'ouverture de la poitrine. Donc là, on nous touche un sens de plus de nudité. Enfin, parfois, c'est le signe de ce point-là, c'est vraiment l'ouverture tendre à ce qui est. Puis après, il y a les yeux, donc là, qui restent ouverts pour rester, pour bien montrer que c'est pas du tout une pratique d'introspection, mais au contraire, on est ouvert à la vie. Alors c'est vrai que c'est moins confortable que quand on a les yeux fermés, mais au moins on est plus alerte. Et puis le dernier point, c'est la bouche entrouverte. Là, on laisse le mouvement de l'air passer. Et ça permet d'éviter les crispations qui sont dans le visage. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, 1000 fois par jour, je me rends compte que j'ai la mâchoire complètement serrée. Et donc, je pense que même existentiellement, lâcher la mâchoire inférieure, c'est quelque chose. Voilà, je pense que tu les as. Ouais. Tu les as tous. Merci. C'est une bonne aide, il ne faut pas faire ça à chaque fois, hein, nécessairement, mais c'est une bonne aide pour rentrer dans la posture. Si on décide, par exemple, qu'à une pratique, on a envie d'explorer ça plus avant, ben, on peut le faire comme ça, avec les deux points que j'ai dit dans la pratique, à la fois la solidité et l'ouverture. Vraiment explorer ça, l'assise, l'ouverture, et le deuxième point, les perceptions sensorielles. C'est vraiment par là qu'on peut habiter le corps, et j'en profite pour dire que sur le site et dans les cours qui sont disponibles, il y a tout un cours et les enseignements de Clément qui explore ça magnifiquement à partir de son travail de très longues années d'entente et d'intelligence du corps. Il est kiné et masseur, et si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à écouter ces enseignements et ces pratiques. Clément Cornet. Okay. C'est le président de l'école à Paris, enfin en France.
C'est sur le site, ça.
Oui, c'est sur le site, dans l'espace membre, dans les je sais plus exactement. Quand tu fais tout défiler, tu vois les cours spécifiques. Et je pense que c'est habiter la présence par le corps, quelque chose comme ça, je pense. Ça, vraiment, c'est parfait pour les vacances, comme on ne se voit plus si on veut s'offrir. Non, mais vraiment, hein, je le conseille fort. Bon, j'ai tout mélangé ici. Est-ce que la vie.
Il y a trois pratiques et un truc un peu plus long.
Ah voilà. Super. Et il y a aussi son DVD, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Comme ça, j'ai tout dit. Parce qu'en fait, on n'en finit pas d'entrer dans la présence par le corps, dans la pratique de la méditation. Donc, voilà, c'est... Je vous conseille. Cécile, tu avais une question ?
Oui, j'aime bien les questions en partie. J'ai fait exactement la même chose. Sortir du coussin, sortir du cadre. Non, mais c'est parce que...
Tu peux le reculer, hein, tout à l'arrière du coussin.
Oui, j'avais déjà fait, mais je pense que je vais vraiment le reculer encore plus, parce qu'avec mes grandes jambes, et je ne suis pas très souple, je préfère être sur un coussin que sur une chaise. Mm-hmm. J'ai expérimenté deux. Mais voilà, il faut que mes jambes aient de la place pour se plier très peu, loin devant.
Aménagez-vous voilà. comme vous le sentez.
Voilà. Ça va être trop, donc je vais partir. la deuxième chose.
Ah ouais, à mon avis, vous mettrez les pieds sur le tapis devant. Parce que...
Oui, tout va bien. Mais donc, parce qu'il y aura moins de monde.
Il y aura quand même du monde. Hein.
Mais on sera que trois par logement.
Oui, par logement.
Mais enfin, on parlera de ça au bout. Mais. Tout sera parfaitement
comme d'habitude.
Ouais, organisé.
Donc ça va quand même avec la posture.
Ben oui.
Tout est bien. Donc quand on méditer, c'est pas être confortable, c'est être comme on est et sentir ce qu'on sent. À partir de quel moment, enfin comment est-ce qu'il y a un petit indicateur qui peut nous faire basculer dans le je bouge pour régler un souci. C'est toujours la même question, hein. je sais.
Non, mais c'est.
Répondu mille fois. Mais parce qu'en plus, il y a parfois des douleurs qui sont des fortes douleurs dues à l'exercice d'un sport avant.
Bien sûr.
Et alors j'ai l'impression que je suis juste là-dedans en me disant. Ah, je remarque que ça fait mal. Tiens, c'est comme la fois dernière. Mais je vais déjà tenter l'autre position, mais à partir de quelle. Parce que c'est. Non, j'imagine qu'on doit sentir soi-même, se dire bon, maintenant ça suffit. Ça fait 10 fois que je pratique et que j'ai cette douleur, je bouge. C'est ça ou bien.
Il y a plusieurs choses, je pense, pour répondre à cette question. Comme je pense que ce que tu as dit, c'est que évidemment, qui est important, c'est que la pratique n'est pas nécessairement confortable au niveau corporel. Ça, on le sait. Ouais. Bien entendu, nous ne sommes pas masochistes. Donc, si tu as, enfin, je veux dire, enfin, voilà, s'il faut bouger, il faut bouger. Mais l'invitation est tout de même de ne pas bouger, de ne pas bouger, en tout cas tout de suite, parce que. Il faut voir vraiment ça comme un... Ça ne peut pas être une torture, bien entendu. Alors, il faut essayer autre chose, ou justement, la chaise, etc. Mais tout l'entraînement, c'est justement d'entrer dans le corps, dans cette posture qui nous donne un cadre très particulier, qui a un sens. Les 6 points de la posture, ça fait partie d'une tradition qui a 2500 ans. C'est pas du tout l'école qui l'a inventée, etc. Et donc l'invitation, la première invitation, c'est de, comme tu viens de dire, donc de regarder ce qui se passe, de sentir que ça fait mal, que ça tire ou ce qu'on veut, et pas bouger tout de suite. Donc vraiment se donner largement l'occasion et de se poser des questions du type où est la douleur, d'essayer de la circonscrire, comment est la douleur. Donc on peut entrer dans un rapport d'attention très précise du coup par rapport à cette douleur. Si tu bouges trop vite, tu perds complètement ce rapport là donc tu peux te poser plein de questions. Est-ce qu'elle a un nom, est-ce qu'elle a une couleur, un peu comme dans la pratique des embrassements, tu peux faire ça exactement la même chose avec la douleur qui est là. Et tu peux être très curieuse, est-ce que tout à coup une émotion qui arrive, est-ce qu'il y a une pensée particulière. Alors, il ne s'agit pas du tout d'élaborer ou de commencer à faire plein d'histoires par rapport à ce qui pourrait se coller à cette douleur, mais ça peut être très intéressant de voir si c'est une émotion particulière, hop, qui apparaît au même moment, ou une pensée récurrente, des choses comme ça. Tu n'en fais rien, juste tu le notes. Mais donc, tu vois, là, tu as quand même pas mal de... j'allais dire de choses à faire, mais vous l'entendez bien. Ça va. Parce que, mais donc vous voyez, dans la pratique de la méditation, il y a toujours ces deux pendants, à la fois l'attention très précise à ce qui se passe et à la fois l'ouverture. Donc tu fais ça, mais en même temps, tu restes aussi ouverte à ce qui se passe autour de toi. Après, si ça devient insupportable, tu bouges. Après, tu peux mettre tes jambes comme Marie-Claire a mis, Marie-Claire à côté de toi. Là, hop, par exemple, ça permet de faire circuler le sang si tu as des fourmis ou des choses comme ça. Tu fais ça pendant 5 minutes et puis après tu remets tes jambes comme ça. Enfin, c'est possible. Mais il n'est pas possible, il n'est pas impossible qu'il y ait une autre douleur qui arrive une fois que tu auras mis tes jambes comme ça. Donc, le problème, c'est que quand on commence à bouger, parfois on a de plus en plus envie de bouger et tu commences à avoir mal ailleurs, ailleurs, ailleurs. Parfois, c'est encore plus simple de juste pas bouger et d'abandonner. Et là, il n'y a que toi qui sais, du coup. Si c'est insupportable et tu as une crampe parce que tu as fait du sport la veille, bon, ben voilà, là, il faut bouger, c'est évident. Mais,
Oui, mais là, c'était pas une crampe. Oui, c'est vrai qu'une crampe,
Bon, après, on peut imaginer qu'il y a... Mais a priori, ce qu'on observe, c'est aussi son rapport à l'immobilité. Et donc peut-être le fait que ce soit insupportable d'être immobile de tout, pour des tas de raisons. L'esprit est fantastique pour ça. Et donc disons que de la même manière que quand il y a des pensées, tu vas dire bonjour, bah, tu fais la même chose. Là, si c'est ça qui est récurrent, tu fais la même chose avec ce que tu sens dans le corps. J'ai cette crampe, ce tiraillement. Bonjour, je reviens au souffle. Et dans la plupart des cas, on n'a pas, en fait, souvent, réellement, on n'a pas vraiment besoin de bouger.
Mais en fait, c'est peut-être juste moi que ça agace, en fait.
Bien sûr. Enfin, bien.
C'est toujours. Enfin, c'est. Je fais trop souvent. Ça m'agace, en fait. Je sais. Enfin, je sais bien ou mal, mais la pensée se focalise sur le fait que ça agace.
Voilà. Et ben là, ça t'a un champ de. Un champ d'observation, tu vois que ça t'agace, que ça t'attriste, que ça tout ce que tu veux, voilà, c'est au travail parce que tu vois tout ça et puis tu lâches. Ça. Mais quand même, c'est bien, non?
Et j'aime de sortir
du cadre. Oui, vas-y, peut-être que, oui, bien sûr, ceux qui veulent chercher un plaid. Quelqu'un d'autre en a besoin parce que alors tu peux en prendre deux comme ça.
J'aimerais bien en
troisième. En troisième.
Prends-en quatre pour être sûr.
Cinq. T'en veux.
Non, j'aime bien.
Qui dit mieux?
Non, c'était pour. Non, moi, je suis sortie du cadre aussi parce que j'avais. Moi, je bougeais juste avant que ça me tombe parce que ça me tirait terriblement dans les genoux et dans les...
Ici, là, tu vois.
Oui.
Après, ce qui est très intéressant, c'est quand même de méditer sur le rapport au cadre, du coup. Oui.
Méditer comment tu
penses? Il y a un rapport au cadre. La posture est un cadre. Et donc, c'est intéressant de juste voir son rapport au cadre.
Les deux dernières méditations que j'ai écoutées sur Fabrice, avec Fabrice, c'était... Asseyez-vous quand vous le voulez. Donc c'était bien.
Oui, mais de nouveau, hein, comme à chaque fois, ici, ce qui est intéressant, c'est de donner différentes pratiques de méditation guidée que vous explorez, que vous réécoutez ou pas. Si vous êtes plus sensible à d'autres pratiques ou celles que Fabrice fait pour le moment, ben, c'est absolument formidable puisque c'est celle-là qu'on fait dans l'école. Mais c'est vrai que c'est juste... Je pense que c'était important de parler de ces points de la posture parce que dans la vie d'un pratiquant ou sur le chemin d'un pratiquant, à un moment donné, on rencontre la posture. Et c'est vrai que dans l'école, ce que Fabrice fait maintenant, c'est qu'il a vraiment noté que la posture était un véritable obstacle à l'entrée dans la pratique et qu'il y a vraiment une manière d'entrer dans la pratique de la méditation beaucoup plus immédiate et ouverte en n'y allant pas par la posture d'abord. Et c'est pourquoi on ne fait plus ces points de la posture maintenant dans les soirées portes ouvertes. Mais je trouvais ça intéressant pour les membres, voilà, et pour la dernière session ce soir, de montrer que ça aussi existe et que ça peut être un moment donné dans son chemin de la pratique, que ce soit maintenant ou dans 2 ans, intéressant à explorer, quoi. Et c'est comme ça que... C'est comme ça qu'il faut le prendre, disons, pas du tout comme une obligation ou quoi que ce soit. C'est une manière de goûter à différentes choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Oui.
J'ai rajouté des questions.
Bah, on a le temps, c'est bien.
Mais c'est pas pour le décaparer du temps, mais c'est par rapport aux gens, justement, au moment où tu disais... Il y avait un moment où il y avait un côté un peu de penchant en arrière. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais
oui.
J'ai senti que je me penche en arrière.
Oui.
Et du coup, il y a plusieurs questions que j'ai en même temps liées à ça. Il y a le côté où ça commence à tirer ici, justement, là où vous me dites toutes les deux que ça tire. Et je me suis dit, zut, est-ce que finalement mes genoux sont pas trop hauts? Et que du coup, il y a un déséquilibre. Et en même temps, je me dis, bon, le coussin est fait pour pas être hyper stable. Mais du coup, je comprends pas, est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est mieux d'avoir plus les genoux vers le bas et donc
je pense qu'il faut pas trop penser en fait.
Ouais, c'est ça.
Je pense que et c'est bien la raison pour laquelle on commence pas par ce genre de pratique. Je pense qu'il faut pas trop penser. Tu peux complètement t'en remettre à ton corps et te dire que de sentir quelle est l'assise qui lui convient là maintenant, qui sera peut-être pas parfaite, qui va peut-être se faire sentir que tu files vers l'arrière, etc. Mais juste fais confiance à l'assise qui est là maintenant, la tienne, et laisse tomber toutes les questions, parce qu'à un moment donné, ton corps va entrer tout dans la posture, en fait. Il va chercher lui-même, et à un moment donné, il y aura quelque chose de beaucoup plus familier. Alors c'est vrai, comme tu dis, que le coussin n'est pas entièrement stable, et moins stable que les habitants quand on allait... les jambes, les genoux par terre, ça sonne comme quand on pratique zazen, ça c'est très très stable. Et ces coussins-là sont des coussins qui ont été choisis par Fabrice, justement parce qu'il y a ce tout petit sens d'instabilité qui est une métaphore de l'instabilité de notre vie courante. Donc c'est vrai qu'on n'est jamais complètement immobile et que l'on fait aussi avec ça dans la pratique. Et donc jusque, ça c'est des petites indications, mais jusque là ça a un sens en fait, cette petite instabilité. Et souvent on a l'impression qu'on tombe en arrière, mais on tombe jamais en arrière en fait. C'est aussi comment tu t'en remets à l'espace aussi. Donc tu peux sentir, tu peux vraiment et tu peux t'autoriser à explorer ça. Puisque de toute façon on ne va pas tomber ni en avant ni en arrière, sauf si on s'endort et après hop, mais tu ne l'as pas fait.
Non,
parce qu'il y a un petit sursaut,
oui,
qui te rappelle, et donc c'est quand même rare. Moi j'ai dû voir peut-être une.
Je ne vais pas fermer les yeux parce que j'avais l'impression qu'elle allait tomber vers l'avant.
Oui, mais je pense que sur tous les séminaires, je crois que j'ai dû voir une ou deux personnes qui étaient tombées en 17 ans ou en 15 ans. Donc, je crois qu'on peut quand même avoir confiance qu'on va revenir à la présence avant de piquer du nez. Mais, voilà, faire confiance. Et alors aussi, franchement, pour ceux qui ne l'ont pas fait, faire un stage 1. Non, mais c'est très important, en fait, parce que... C'est là qu'on va véritablement explorer notamment la posture et aussi avec des moments d'ajustement de posture. Et donc ça veut dire qu'un enseignant de l'école ou un volontaire va vraiment venir auprès de vous pendant que vous pratiquez à des moments particuliers et va vous aider à vous ajuster et à vous asseoir dans la posture. Et ça change vraiment. Ici c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de temps, puis... Mais ça change tout, véritablement, parce que travailler le bassin, les épaules, les choses comme ça. Donc ça, si je vous invite, quand il y a le temps, le jour où vous serez sur un stage 1, ne ratez surtout pas les ajustements de posture. Et souvent, il est il est conseillé d'essayer de vraiment avoir une mémoire très corporelle de cet ajustement pour le retrouver. Tu verras ça cet été, Cécile. On verra ce qu'on te dira de ton hors cadre.
Oui, mais maintenant que je sais que le coussin a été choisi parce qu'il était instable, voilà. Ça me parle, j'ai compris. Il y a déjà quelque chose qui... Parce que j'ai aussi cette impression de partir en arrière parfois. Donc ça ne va plus me tracasser si je sais que je ne tomberai pas.
Non, il y a cette image qui est très belle, c'est l'image du cavalier. Hein.
Oui.
Et peut-être. Bah oui, c'est ça.
Merci.
Bon, alors je vais parler un peu de l'école. En calculant, je me suis dit que l'école, je me suis rendu compte que l'école à Bruxelles existait depuis 7 ans. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme le nombre de membres a vraiment explosé, j'ai envie de dire, je me dis mais c'est vrai, il y a des gens qui connaissent pas au fond cette aventure qui s'est passée à Bruxelles. Alors c'est pas tellement des points historiques comme ça qui sont intéressants, savoir telle date, telle chose, mais c'est plutôt ce que j'avais envie de montrer, c'est le au fond comment naît une communauté de pratiquants. Et en discutant avec ceux qui ont ouvert par exemple en Suisse ou en région ou même en France, on retrouve ces mêmes mouvements en fait dans la naissance comme ça d'un centre et puis surtout d'une communauté. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que l'école est un peu comme a vraiment une vie à elle, quoi, une vie à elle vraiment très très organique qui peut un peu et c'est qu'en en y regardant, je dirais par après, qu'on se rend compte des différents cycles que l'école a traversé, parce que quand on est dedans, on est un petit peu, pas comme pour tout, dans le nez, dans le bidon, mais quand on regarde comme ça quelques années en arrière, bah, voilà, se dessinent différents mouvements, et j'avais envie de vous parler de ces différents mouvements. Donc, c'est quand même une date, l'idée d'ouvrir une antenne à Bruxelles a surgi en 2014, ça faisait déjà 7 ans que j'étais dans l'école, et donc je sillonnais les routes pour aller aux différents séminaires, week-ends, etc., et après un séminaire que menaient François Fézier, Adrien, France Lanor et Fabrice sur le silence, si je ne me trompe pas, je suis revenue de ce séminaire en me disant mais il faut absolument ouvrir une école en Belgique, parce que je me sentais tellement pleine de gratitude d'avoir reçu cette pratique et de recevoir ces enseignements déjà depuis plus ou moins 7 ans que j'avais qu'une envie, c'est de véritablement pouvoir que ça se transmette ici, près de chez moi, et au fond faire communauté ici. Et donc le premier mouvement, c'était vraiment l'éclosion, on va dire quoi. J'ai eu beaucoup de chance parce que la préfète de mon lycée m'a prêté une salle de gymnastique. Et donc c'est comme ça qu'en septembre 2014, avec 5 coussins que j'avais ramenés du séminaire d'été, de la retraite, je me rappelle encore. Et tout ça se fait un peu comme ça, de manière très spontanée. Je vois qu'on range les coussins et tout. J'en prends 5 pour Bruxelles. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ok. Hop, et je me voilà dans ma voiture avec 5 coussins, des machins, des trucs, mes valises. Enfin bon, et je dis ok, comment je vais faire? J'ai même pas de salle, j'ai rien du tout. Mais c'est pas grave, on y va. Et donc, c'est comme ça que j'ai accueilli les premiers pratiquants. Dans ce gymnase qui sentait les baskets et qui n'était jamais rangé, il y avait plein de poussière, enfin, je ne dis pas décorum zéro, pas de bannière, rien. La seule chose que j'avais, c'était mon coussin, pas de tatami, rien du tout, et juste la rose et le gong que j'avais été chercher. Et puis 5 petits coussins comme ça, et pas grand monde, oui, beaucoup de monde, parce que beaucoup d'amis la première fois, donc le premier dimanche fin d'après-midi, parce qu'au début c'était dimanche fin d'après-midi. Il y avait, je sais pas, 15-18 personnes. Je me suis dit, waouh, mais formidable, ça y est, c'est parti. Bon, dimanche après, on était 3. Ça a commencé à être un peu plus autre chose, disons, quoi. Voilà, donc il y avait plein d'obstacles. Les profs de gym rangeaient jamais rien. Enfin bon, c'était. Je sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez au cours de gymnastique, mais il y avait ce qu'on appelle le tour du monde. Donc c'est tous les engins sont sortis et puis il faut passer, etc. Et donc quasi 2 semaines sur 3, j'arrivais dans une salle aussi grande que celle-ci, un peu pas loin, ouais, aussi grande que celle-ci, et tous les engins étaient installés. Donc on se retrouvait avec 2 coussins entre une poutre, un autre derrière une bombe. Enfin bon, c'était hallucinant, quoi. Enfin bon, en tout cas, le cœur y était. Mathieu était le premier enseignant à venir un dimanche, mais c'était juste 2 heures, hein, comme ça, juste pour la causerie, etc. Il a eu bien du courage. Et c'était vraiment, mais il y avait un sens d'aventure incroyable. Et c'est à ce moment-là que sont arrivées, je dirais peut-être vers la fin de la première année, si je ne m'abuse, Estelle, qui est dans l'école, qui est maintenant à Dijon, qui était coordinatrice ici à Bruxelles, qui a été la première secrétaire de l'ASBL. Elle travaille aussi français, donc elle est arrivée, je ne sais plus comment, ça il faudrait lui demander quand vous la verrez. Sylvie, Henri, vous connaissez, Nicolas, Patricia, Vasco, je les cite parce qu'ils ont fait partie du début de l'aventure. Et puis il y a commencé à avoir comme ça des participants un peu plus réguliers, mais bon, on était 5, quoi. Hein, et c'est là qu'on voit le début du sens de communauté, parce que entre mes coussins, mes machins, tout ça, tout à coup il y a quelqu'un qui dit: oh ben attends, laisse, je vais m'occuper de l'accueil, passe-moi la boîte où on met les sous, etc. Ah mais peut-être que je vais juste passer un coup de balai, parce que là c'est vraiment sale, etc. Et en fait c'est ça tout le côté vraiment organique de cette école, parce que à un moment donné, à partir du moment où on commence à pratiquer, on commence à porter attention aux choses. Et donc, c'est comme si le regard devenait un peu plus précis aussi. Et donc, les pratiquants qui venaient comme ça de mois en mois, tout à coup, se disaient: oh, non, c'est pas possible. Tout à coup, ils remarquaient la poussière, ils remarquaient le désordre. Non, mais c'est très réel. Quelque chose auquel on ne fait pas attention. Ça devenait gênant, en fait, que ce soit plus... On commençait à voir que c'était de moins en moins ajusté, quoi. Et c'est comme ça que, justement, au début de... Donc, on a encore fait une année comme ça. On était alors ASBL, donc un an après, en septembre 2015, on a créé l'ASBL avec secrétaire Estelle pour secrétaire et Vasco comme trésorier. Donc ça, c'était quand même un grand pas, parce que dit ok, c'est bon, on avance. La deuxième saison hyper chaotique aussi, jamais de chauffage l'hiver, enfin bon. Toujours est-il que vers le mois de mai, là, à un moment donné, complètement marre, et j'ai dit: en septembre c'est fini, moi je mets plus un pied ici, on mérite mieux, quoi. Enfin, il y avait vraiment quelque chose comme ça, c'est juste pas possible, nous on commence à être une toute petite communauté, on va quand même pas supporter ça plus longtemps. Et en même temps, bon, j'avais la trouille, je me dis bon, de nouveau j'ai zéro plan B. Et là, hop, je rencontre l'ami d'une amie qui a entendu parler d'un lieu qui s'appelle l'usine, qui est en complète réfection, etc. Il serait ravi d'avoir des participants un peu récurrents, etc., quoi. Donc voilà, on a été un des premiers groupes, en tout cas, à louer un lieu ici à l'usine. Et donc on a aussi quand même une histoire commune avec ce lieu qui est l'usine, puisqu'en fait on a vu tout le mouvement, tout le travail, ça a été repris donc par Clara et Pierre, son frère, tout ce qu'ils ont fait comme transformation dans un très bel esprit. Donc c'est aussi très gai d'avoir pu participer à ça aussi, même financièrement, du coup depuis 2016, si je ne me trompe pas. Et donc à partir du moment où on arrive ici, c'est le deuxième mouvement, et là je dirais que c'est vraiment le mouvement de l'établissement, quoi, parce que alors là ça y est, on est dans un bel endroit, on peut commencer à se dire tiens, il nous faut absolument des bannières. Et là, il y a l'esprit de l'école qui peut commencer à se manifester très concrètement. Donc les bannières, plus de coussins, faire venir des enseignants les dimanches. Là, il y a Marie-Laurence Catoire qui est venue, Anne Vigneault, Dominique Sautier, Xavier Ripoche, Guillaume, Clément. Et donc à chaque fois, c'est assez formidable de les avoir ici pour les dimanches, différents dimanches, parce qu'ils apportaient leur propre tonalité à chaque fois qu'ils venaient avec d'autres méditations guidées. Il n'y avait que moi encore jusque-là, donc c'est sûr que bon, c'était pas mal de voir un peu quelqu'un d'autre que ma pomme, d'autres manières de pratiquer, d'autres expériences, etc. Et donc ça a vraiment permis à nous établir, mais pas que, je dirais, pas que géographiquement, hein, donc c'était vraiment, il y avait nous établir dans la pratique pour la communauté. Et ça, je me rappelle que plus ou moins à ce moment-là, Je crois que c'est un peu après que Fabrice a demandé justement que Clément vienne faire un cycle ici, justement sur le fait d'habiter son corps dans la présence, parce que c'était très important que la communauté s'installe dans une pratique plus régulière, plus engageante, si je peux dire, quoi. Et c'est aussi à ce moment-là que les membres ont commencé à partir en stage, ce qui n'avait pas encore été tout à fait le cas les deux premières années, ce qui était assez normal en fait, parce que on sentait quand même que de loin l'esprit de l'école, quoi, puisqu'il n'y avait pas encore tout cette espèce de monde qu'on essaye d'ouvrir, quoi, à chaque installation en fait, quoi. Donc une fois que ça a été plus apparent, je pense que ça a aussi donné l'envie aux membres de se dire, ah ben on va quand même découvrir le cœur au fond de cette école sur les stages, etc., quoi. Et là, troisième mouvement, et je pense que j'ai appelé le mouvement du fleurissement. Et ça, je pense que ça a été sans conteste quand Sylvie est devenue enseignante. Donc là, ça faisait déjà, il faudrait lui demander parce que j'ai pas tout repris les ans, mais je pense que ça devait bien faire 3 ans qu'elle était, 3 ans qu'elle était pratiquante et membre de l'école. Elle a fait tous les stages, etc. Et je dois dire que j'attendais ardemment que justement beaucoup de pratiquants fassent les stages, se forment, aient un sens d'engagement, des choses comme ça, et peut-être et le désir en fait de devenir enseignant. Je regardais, je me disais qui ce sera, qui. Et souvent Fabrice me disait alors, bon au début c'est trop tôt quoi, mais souvent il me dit alors est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui. Et donc c'était Sylvie, et donc là ça a vraiment tout changé, je pense, ça a changé beaucoup de choses, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai que de partager la transmission de la pratique avec quelqu'un ici à Bruxelles, c'est quand même très enthousiasmant, il y a vraiment un exercice d'intelligence collective qui a lieu, et puis on est très différentes toutes les deux, et on se complète vraiment bien, donc je pense que aussi pour les pratiquants, ça, c'était que richesse, en fait, quoi. Donc ça, c'est l'arrivée de Sylvie comme enseignante, le fleurissement. Et puis le dernier mouvement, je dirais que c'est là où nous en sommes, enfin, je pense, hein. Peut-être que je ferai un autre mot dans 2 ans, j'en sais rien, mais celui qui m'est venu là, c'est le mouvement du déploiement, en fait. Parce que quand je regarde la nouvelle et jeune équipe... jeune, pas dans le sens de l'âge, hein, jeune dans le nouvel, dans l'école, l'équipe de volontaires qui s'engage d'une manière qui m'émeut beaucoup, je dois dire, ben, il me semble voir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. On voit qu'il y a de plus en plus de pratiquantes et de pratiquants qui désirent mettre la main à la pâte, même sans qu'on leur demande rien. En fait, ça vient assez spontanément. Et ça, je pense que ça, c'est aussi le signe qu'en fait, l'esprit de la pratique est transmis et l'esprit de l'école est transmis. Parce qu'on va dans un stage, on va dans un séminaire, il y a ce souffle qui vient, en fait, ce désir de... on voit à quel point la pratique transforme notre existence de manière assez immédiate, quoi. Et donc, le signe qui est comme ça, des personnes qui s'engagent et qui proposent leur aide... leur aide, c'est joli lapsus, c'est le signe que quelque chose de la pratique est touché, en tout cas dans ce lieu. Et donc ça me bouleverse beaucoup, je dois dire. Oui, donc c'est ça, c'est le signe que c'est possible de toucher la dimension existentielle de la pratique ici. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le mouvement du déploiement, parce qu'il me semble qu'à partir de là, quand il y a une communauté solide et ardente et chaleureuse, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut s'ouvrir plus. Et donc s'ouvrir plus à de plus nombreux membres, à d'autres types de types d'événements, etc. Et qu'il y a quelque chose où on peut complètement absorber ça. Parce qu'on pourrait avoir un peu peur, en fait, que tout à coup, on double le nombre de membres. Je pense qu'on est absolument tout à fait assez solide pour ça, parce que par l'exemple, on voit dans les membres qui viennent comme ça régulièrement, on voit des pratiquants en fait. C'est sûr que par vous tous, la pratique se manifeste. Et donc, quand il y a des nouveaux qui arrivent, c'est pas uniquement Sylvie ou moi qui transmettons la pratique, c'est tous les pratiquants qui viennent de manière régulière, qui transmettent la pratique au fond par leur présence, quoi. Et voilà, je pense que c'est vraiment très, 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 très important. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui va faire qu'on va pouvoir ouvrir une maison de la méditation à Bruxelles d'ici une bonne année. Je pense que ce sera vraiment tout à fait possible et tout à fait bien. Les choses seront parfaitement bien disposées. Donc, j'en profite pour dire merci à Sarah, à Jeanne, à Bastien, à Mathilde, à Arnaud, à Karine, à François, à Mélina, à tout le monde qui est là, à tous ceux qui participent, qui aident, à tous les membres qui viennent de manière régulière. Merci à tous ceux qui ont œuvré dans l'école, qui pour des raisons ou pour d'autres ne sont plus là pour le moment. Et puis surtout, merci à tous les volontaires qui sentiront l'enthousiasme de nous rejoindre. Parce qu'au fond, volontaire, c'est pas simplement poser des coussins, c'est pratiquer la méditation en action. Et c'est une formation tout aussi extraordinaire qui va de pair avec qui est l'autre volet en fait de la pratique de la méditation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous du mouvement de l'école à Bruxelles. Et on en fera une autre dans 7 ans.
Quand tu dis que dans un an, on va ouvrir une école à Bruxelles, mais elle n'est pas déjà ouverte.
Oui, je me suis mal exprimée. Une maison de la méditation à Bruxelles. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est véritablement avoir un lieu à nous en location de manière... Enfin, avec un bail au mois, etc., pour permettre de faire d'autres événements, d'ouvrir des plages de méditation même en journée, avec l'un ou l'autre membre qui voudrait garder simplement le temps en silence, ou des choses comme ça, ou faire des cycles, faire venir Fabrice ici. Ça permettrait, on serait beaucoup moins tenu par les horaires ici, etc. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de paramètres. Je ne peux que rappeler que s'il y a quelqu'un qui a très envie de chercher ce lieu, il peut m'appeler ou elle peut m'appeler. Je serais ravie qu'on en parle. Mais je pense que ce serait tout à fait formidable.
Et en faire une deuxième ailleurs, je sais. Il y a un moyen. Avec un
enfant, je suis toute seule. Ce qui est important, c'est que l'école, Fabrice dit toujours ça, l'école c'est vous. Donc pour le moment, ça n'est qu'à Bruxelles parce que Sylvie et moi, nous sommes de Bruxelles et que c'est sûr que voilà, c'est comme ça. Mais on pense. On cherche un lieu pour faire un stage, comme tu sais, un stage 1 ici qui permettrait aux Belges d'aller plus facilement faire un stage 1. Et rien n'empêche ceux qui voudraient simplement pratiquer ensemble et qui habiteraient tout près les uns des autres, de pas louer une école ou d'une antenne, mais en tout cas de pratiquer ensemble, parce que parfois c'est sympa de pratiquer ensemble. Je sais qu'il y en a qui colloquent et qui pratiquent ensemble. Voilà, il y a un peu de l'école dans leur pratique et c'est vraiment chouette. Donc, voilà.
Son prof, il y a un groupe de pratiquants de méditation, on n'est pas de l'école.
On va reprendre la pratique maintenant.
Oui. Ouais.
Je crois que c'est le moment maintenant vers une autre sorte de célébration de la présence, mais à mon avis, Jeanne va nous en dire quelques mots.
Mm-hmm.
justement d'aller vers l'autre sorte de célébration de présence qui nous attend là derrière. J'avais juste envie de faire un petit mot de clôture. Je trouve que ça a été une année assez particulière parce que conditions sanitaires, etc., et augmentation du nombre de personnes, mais au final on était un nombre assez restreint avec des limitations, etc. Et je trouve que cette année, on a vraiment pu remarquer qu'il y avait quelque chose qui nous était important, essentiel, c'est le lien, et le lien d'être avec les autres, puis aussi d'être en lien avec le cœur de notre humanité. Et c'est vraiment ça que l'école de méditation nous invite à faire, être là, alerte, curieux, s'ouvrir au monde, en restant soi. Ce sont vraiment des ressources précieuses qui nous donnent la force, l'allant. Je pense que c'est important de remercier déjà chacun d'entre nous, d'entre vous, d'entre nous, pour la présence, pour votre présence, pour tous ces moments d'échange. Benjamin disait, il n'y a pas longtemps, que l'école était construite comme un poème. Tout le monde y a sa place. Et s'il manque quelque chose, le poème n'est plus poème, le monde n'est plus monde. Et donc si l'école est école, c'est vraiment parce que chacun d'entre nous contribue, chacun à sa manière. Donc voilà, merci à vous tous. Puis je tenais aussi à remercier les volontaires du fond du cœur pour votre entrain, votre allant, le sang que vous mettez dans chaque geste tout au long de l'année. Donc c'est terriblement précieux, ça permet vraiment de déployer la présence. Donc, voilà. Et puis, dans ces volontaires bénévoles, il y a vous, Marine et Sylvie, qui nous accompagnez sur nos chemins avec simplicité, fougue et authenticité, puis surtout avec passion. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'au-delà des enseignements, au-delà des pratiques, au-delà des moments d'échange et au-delà de tout le travail fourni, vous nous transmettez surtout votre manière d'aborder la vie. Par votre manière d'être, vous nous insufflez l'allant, d'explorer toujours plus loin, d'agir au plus juste, d'écouter encore plus à nu, de reconnaître l'autre dans sa plus haute dignité et de nous reconnaître dans notre plus haute dignité. Vous nous insufflez passion, détermination, ouverture à l'espace qui sont vôtres. Et donc par votre manière d'être, en fait, vous incarnez littéralement l'école. Et donc, on voulait vraiment vous remercier. Et on a un petit cadeau pour vous qui est symbolique, qui a été fait par la plupart des membres de l'école, qui arrive, et auquel on vous invite à prendre part. C'est Sylvie a écrit un mot sans le savoir dedans. Et c'était pour ça, les quelques mots sur l'école. Vas-y, tu peux d'abord offrir les fleurs. Mais donc, ça remercie vraiment tout le monde.
Merci. 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 Oh, c'est beau.
En fait, je vais juste. C'est les fleurs séchées pour qu'elles puissent rester bien pour nous. Et en fait, ce carnet, c'est un carnet avec tous des partages de plein de membres, anciens comme récents, pour remercier l'école. Et donc, je voulais quand même vous lire un petit mot de Sylvie, parce qu'on parlait de Sylvie tantôt. Elle ne savait pas qu'elle écrivait dans ce carnet, mais elle l'a écrit. Mon arrivée à l'école a été un espace qui s'est ouvert, un espace de simplicité et de chaleur humaine sans histoire. J'ai entendu une parole vraie qui a résonné au cœur de mon être. J'ai découvert comment le partage sincère d'une expérience réelle pouvait nourrir ma propre expérience. La rencontre ensuite avec l'antenne bruxelloise fut un nouvel étonnement. J'y ai vu que d'être ensemble pour vivre un moment de rencontre avec notre existence était essentiel. partager la simplicité, l'étudier, apprendre à vivre un moment chaleureux sans histoire, donne beaucoup d'allant pour le quotidien, se confier ensemble à ces moments sans souci de résultat, est un soulagement grandissant. Toute ma reconnaissance et ma gratitude vont à Mamie d'avoir rendu cela possible et de tenir le fil pour que cela continue. Un tout grand merci à toute l'équipe de bénévoles qui font vivre l'antenne bruxelloise dans l'esprit joyeux, chaleureux et profondément sincère, cher à l'école. Et bien sûr, merci à Fabrice de nous montrer la vision du chemin. Très chaleureusement, Sylvie.
On va faire le coup de bombe. Du coup. Oui. Merci beaucoup. Quelle idée géniale. Ça va aller dans les annales de l'école maintenant.